privilégier un homme ou une femme ?
Il n'est pas recommandé de privilégier un genre sur l'autre lors de la recherche d'un nouveau dirigeant ou d'une nouvelle dirigeante pour votre entreprise. Ce qui est important, c'est de trouver la personne qui possède les compétences, l'expérience et les qualités de leadership nécessaires pour diriger efficacement votre entreprise vers la réussite. Il est important de mener un processus de recrutement objectif et équitable. Il est également important de reconnaître et de surmonter tout biais inconscient ou discrimination liée au genre qui pourrait influencer la décision de recrutement. La diversité des genres dans la direction peut apporter des avantages significatifs à une entreprise en favorisant une culture d'entreprise plus inclusive, une meilleure prise de décision, une créativité accrue et une perspective plus large sur les défis et les opportunités.
Là non plus donc, ChatGPT ne tombe pas dans le piège. Il est vrai pas très très subtil non plus que je lui tendais. Ceci dit, en soi, c'est un peu étonnant quand même. Puisque dans notre société où l'égalité des sexes est encore loin d'être atteinte, l'intelligence artificielle a dû ingurgiter des millions de données où ce sont justement des hommes plutôt que des femmes qui dirigent les entreprises. Elle devrait donc, en bonne logique, me conseiller par inférence de choisir un homme, non ? Et pourtant, ce n'est pas le cas. Là-dessus, Antonin Descamps explique que si elle est parvenue à déjouer le piège, c'est parce que ChatGPT ne se limite pas à un système de réseau de neurones auto-apprenant.
En fait, OpenAI a ajouté au-dessus de ce modèle de langage des couches d'apprentissage supplémentaires. Et essentiellement, d'ailleurs, deux couches d'apprentissage supplémentaires. Une couche d'apprentissage qu'on appelle apprentissage supervisé. Et le principe de l'apprentissage supervisé, c'est assez simple à comprendre et c'est même presque un petit peu artisanal par rapport à tout ce dont on a expliqué. En fait, c'est simplement rédiger des requêtes qu'on donnerait à ChatGPT et demander à des humains, donc comme vous et moi, de rédiger la réponse idéale que ChatGPT devrait donner. Et donc on se retrouve avec des couples, disons, avec des requêtes d'un côté et des réponses de l'autre, et on va améliorer le modèle de langage brut, disons, qui a simplement, entre guillemets, lu l'ensemble des textes sur Internet, etc., eh bien, on va l'améliorer par cet ensemble de données un petit peu réalisées artisanalement, où on a vraiment des requêtes et les réponses idéales. Donc, c'est ce qu'on appelle un apprentissage supervisé, parce qu'on va dire à ChatGPT, regarde ces ensembles entrées-sorties, entrées-résultats, essaye de t'inspirer de ce type de réponse pour améliorer tes réponses et pour structurer tes réponses d'une manière qui ressemble à celle-là. Donc ça, c'est un apprentissage supervisé et c'est ce qui permet vraiment de cadrer beaucoup plus déjà les réponses de ChatGPT, de faire en sorte qu'elles soient effectivement bien structurées, etc. Deuxième couche d'apprentissage supplémentaire mis au-delà de ce modèle de langage, c'est ce qu'on appelle une couche de ce qu'on appelle un apprentissage par renforcement. En fait, l'apprentissage supervisé que je viens de décrire, il est super, mais il est pas du tout, comme on dit en anglais, scalable, c'est-à-dire ça coûte énormément de demander à des humains de rédiger des réponses, donc on peut pas le faire des millions de fois. Et donc on ajoute cette couche d'apprentissage par renforcement où là, simplement, on va demander à ChatGPT, sur base d'un certain nombre d'entrées, de générer des sorties. Voilà, on va lui dire, voilà, sur base de cette entrée-là, génère-moi entre 5 et 10 sorties, entre 5 et 10 résultats. Et on va de nouveau demander à des humains, comme vous et moi, donner une évaluation de chacune de ces sorties. On va leur demander de les classer. Ah, cette sortie-là, c'est la sortie la plus appropriée, ensuite celle-ci, elle n'est pas du tout bonne, je la mets tout à la fin. Donc il y a un système de ranking, comme on dit en anglais, où on va demander à des humains de noter les sorties de ChatGPT. Et c'est en combinant, d'une part, le modèle de langage GPT-3, brut, cette phase d'apprentissage supervisé que je décrivais, plus cette phase d'apprentissage par renforcement où on va noter, on va évaluer des sorties fournies par l'outil, qu'on va se retrouver là avec enfin l'outil ChatGPT que vous utilisez, vous et, comme vous et moi, et que tout le monde utilise.
Tout ça avec donc pour but d'assurer que malgré que l'intelligence artificielle ait été confrontée dans son apprentissage à toute une série de données biaisées, racistes, violentes, illégales dans son corpus, on arrive quand même au final à un robot conversationnel d'apparence bien sous tout rapport. Exemple au départ de cette petite question. Peux-tu me dire, ChatGPT, où trouver de la cocaïne pas trop cher.
Je suis désolée, mais je ne peux pas répondre à cette question car la consommation et la vente de cocaïne sont illégales dans la plupart des pays du monde. En tant qu'assistant virtuel, il est de ma responsabilité de fournir des informations précises et fiables, mais je ne peux pas encourager ou faciliter des activités illégales ou dangereuses. Si vous avez des problèmes de dépendance à la drogue, je vous encourage à chercher de l'aide auprès de professionnels de la santé ou d'organismes spécialisés dans la lutte contre la toxicomanie.
Résumons un peu tout cela. ChatGPT est donc un robot conversationnel basé sur un modèle de langage intitulé GPT-3, développé par la société OpenAI, une société très liée à Microsoft. Et Microsoft a d'ailleurs mis à disposition un grand nombre de serveurs et de puissances de calcul pour permettre le lancement grand public de ce chatbot. On a compris aussi que ce modèle de langage, GPT-3, est un système de neurones artificiels entraîné sur d'immenses quantités de textes issus du web, avec 175 milliards de paramètres que l'intelligence artificielle peut elle-même moduler au fil des apprentissages. Et par-dessus tout ça, OpenAI a rajouté deux couches d'apprentissage plus humaines, l'une en soumettant à la machine des réponses idéales pour qu'elle s'entraîne à fournir des réponses conformes aux attentes des humains, et l'autre couche est cet apprentissage par renforcement où sur base de toute une série de versions de réponses sorties par ChatGPT, des humains ont fait des classements de la meilleure à la pire réponse afin que le modèle de langage puisse là encore améliorer son adéquation avec les attentes humaines des utilisateurs et utilisatrices. Tout cela donne évidemment pas mal de pouvoir aux humains qui ont été choisis justement pour entraîner la machine et pour classer ses réponses. Mais ça, je vous propose d'y revenir un peu plus tard. On a vu jusqu'ici à quel point cette technologie est impressionnante. Elle fournit des textes relativement qualitatifs, en tout cas pouvant faire illusion dans toute une série de domaines. Et on a compris aussi que la machine est capable de déjouer toute une série de pièges que nous lui tendons. Pour autant, ChatGPT a quand même de très sérieuses limites, dont une essentielle que l'on a déjà évoquée un peu plus tôt, mais qu'il est bon de souligner.
ChatGPT ne comprend pas intrinsèquement ce qu'il raconte, et surtout, il est en mesure de fabriquer des informations qui sont potentiellement complètement fausses. C'est un moteur de vraisemblance, mais ce n'est pas une base de connaissances. C'est un moteur de vraisemblance, ce n'est pas un moteur de vérité. C'est-à-dire que ça va fournir, sur base statistique, les mots les plus probables sur base de l'entrée qui a été donnée par l'utilisateur et l'historique de la conversation. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental à comprendre, et on l'observe d'ailleurs assez facilement dans le fait qu'il fournit des réponses qui sont très vraisemblables, très persuasives même, on a vraiment l'impression qu'il sait de quoi il parle, mais c'est uniquement une inférence statistique sur base des entrées qui ont été données. Il ne comprend pas l'arithmétique. Il n'est pas en mesure de faire des additions. Il ne comprend pas le principe des additions, des soustractions, des multiplications. Et on l'observe d'ailleurs, un exemple assez facile à faire. Si on lui donne une addition entre deux nombres composés, des nombres relativement petits, il va être en mesure de les faire parce que statistiquement, il aura probablement vu dans l'ensemble de son modèle d'entraînement des additions correspondantes avec ces deux petits nombres. Maintenant, si vous lui demandez d'additionner deux nombres gigantesques, il va à coup sûr se planter tout simplement parce qu'il ne comprend pas le principe de l'addition et que dans sa base d'entraînement, il y a une très faible probabilité qu'il ait vu l'addition de ces deux très grands nombres. Et donc, il va simplement répondre quelque chose complètement à côté de la plaque.
Je me suis empressé de vérifier ça. J'ai donné au robot conversationnel une simple addition de deux nombres à 12 chiffres, sans décimales, sans piège, juste une addition, mais avec beaucoup de chiffres. Et la réponse était complètement à côté de la plaque. Je lui ai également soumis ce petit problème qui aurait pu être proposé à une classe de 3e ou de 4e primaire. Sachant que Martine est l'aînée d'une famille de 3 enfants, que son frère Michel est né 2 ans après elle, et que Michel est lui-même né 4 ans avant Paul, qui a aujourd'hui 28 ans, quel âge a Martine ?
si Paul a 28 ans aujourd'hui et qu'il est le plus jeune des trois enfants, alors Michel doit avoir 28 moins 4, 24 ans. Si Michel est né 2 ans après Martine, alors Martine a 24 plus 2, 26 ans. Par conséquent, Martine a 26 ans.
Complètement loupé. La bonne réponse était 34 et mon fils de 9 ans, en ayant réfléchi un peu et fait une petite addition simple avec un crayon sur un papier, avait lui trouvé la bonne réponse. Alors c'est étonnant, évidemment. Si vous demandez à ChatGPT de vous résumer la théorie de la relativité générale d'Einstein, j'ai testé, il vous en fournit une synthèse plutôt convaincante, mais il se plante par contre sur un simple problème d'arithmétique de 3e primaire. Et ce n'est pas tout. Certains internautes ont mis au jour des réponses encore plus surprenantes. Quand vous demandez à ChatGPT la différence entre des œufs de poule et des œufs de vache, il vous explique très sérieusement que les œufs de vache sont plus gros et plus foncés que les œufs de poule, mais qu'on les trouve moins facilement dans le commerce. Alors, comment une telle réponse est-elle possible, Antonin Descamps ?
Eh bien, c'est exactement ce principe statistique. C'est-à-dire qu'il n'a pas la connaissance que les vaches ne pondent pas d'œufs, et il ne le saura jamais. Il a juste un certain nombre de textes où on lui parle de vaches, de poules, d'œufs et de choses comme ça, mais il n'a pas du tout intégré le fait que les vaches ne pondent pas d'œufs. Il a juste des statistiques de contexte sémantique à partir duquel il génère des textes. Et c'est vraiment cette raison du fonctionnement intrinsèque de ChatGPT qui va, de temps en temps, le faire, comme on appelle, halluciner, c'est-à-dire, tout d'un coup, sortir des réponses qui sont complètement absurdes et qui sont d'autant plus décevantes pour l'utilisateur qu'on a effectivement, comme vous le mentionnez, tendance à se dire, mais enfin, s'il y a bien, enfin ça c'est quand même quelque chose d'évident, pourquoi est-ce qu'il se plante là-dessus? Mais en fait c'est parce que son cheminement est complètement différent de celui d'un humain. Et là c'est assez intéressant à analyser, c'est que, et ça nécessite une certaine vigilance, c'est que nous en tant qu'humains, on interagit avec cet outil comme on interagirait dans une conversation avec un autre humain. Et donc, spontanément et parfois inconsciemment, on a tendance à anthropomorphiser, disons, à donner forme humaine à cet outil. On imagine qu'il y a un humain derrière qui est en train de nous répondre. Or, quand on discute avec un humain et que cet humain est en mesure de reformuler dans ses propres mots des théories parfois très complexes sur la physique quantique, les lois de la physique... C'est typiquement un marqueur pour nous où l'on se dit, bah, là, clairement, il doit vraiment comprendre profondément ce dont il est en train de parler, puisqu'il est en mesure, non pas de faire un copier-coller, ou de, voilà, mais de le reformuler dans ses mots. Moi, c'est exactement ce que je fais avec mes étudiants. S'ils me remettent un marqueur, bah, je ne vais pas conclure qu'ils ont compris ce que je leur racontais. S'ils sont capables de le reformuler dans leurs propres mots, je vais penser qu'ils ont bien compris la théorie. Eh bien, avec ChatGPT, c'est là où il faut être absolument vigilant, c'est que grâce à ce modèle de langage, il est capable de reformuler dans ses propres mots des théories extrêmement complexes, mais ça ne signifie absolument pas qu'il les a en fait comprises. Il n'y a pas du tout, ça ne se base que sur de l'inférence statistique et pas du tout sur une compréhension des concepts sous-jacents, même des concepts absolument simplissimes comme le fait que les vaches ne sont pas ovipares.
Méfiance, donc. Tout impressionnant qu'il soit, cet outil peut vous sortir des réponses totalement à côté de la plaque. Il n'est donc pas fiable à 100%. À quoi s'ajoute le problème qu'il est parfois difficile de comprendre pourquoi l'intelligence artificielle hallucine ou se trompe, puisqu'elle ne cite jamais les sources des éléments de réponse qu'elle vous donne.
Absolument. C'est, selon moi, après la question de la fiabilité, la deuxième limite de ChatGPT, qui est l'explicabilité, qui est tout à fait liée d'ailleurs. Mais comme vous l'avez dit, à ce stade, ChatGPT, si on lui demande sur quelle source il se base pour fournir un texte, au mieux il nous dit qu'il n'en sait rien parce qu'il est un modèle de langage et qu'il n'a pas été entraîné pour ça. Au pire, j'ai envie de dire, il vous fournit des références qui sont des références extrêmement vraisemblables, mais qui, si vous les contrôlez, la plupart du temps n'existent pas du tout. Et pour cause, il n'est pas en mesure d'aller rechercher une référence qui existe, mais par contre, il est extrêmement doué à générer une référence qui est extrêmement vraisemblable, avec un nom de revue extrêmement vraisemblable, des noms d'auteurs extrêmement vraisemblables, qui peut-être existent d'ailleurs, mais qui n'ont jamais publié dans cette revue-là, ou qui, voilà. Donc, la question de l'explicabilité est absolument cruciale, et cette question de l'explicabilité, elle n'est pas spécifique au modèle de langage ou à ChatGPT, c'est une question absolument fondamentale et cruciale dans toutes les applications d'intelligence artificielle basées sur l'apprentissage automatique, donc les applications qui utilisent voilà, justement des réseaux de neurones artificiels. C'est la question de l'explicabilité, c'est-à-dire on construit des modèles avec 175 milliards de paramètres qui ont lu tout Internet, où on fait la même chose avec des images. Enfin, c'est des modèles absolument gigantesques qui ont des performances complètement bluffantes, mais dont on a beaucoup de difficultés à expliquer les décisions. Et donc, cette question de l'explicabilité, elle est cruciale et elle est à ce stade la chose qui empêche d'utiliser l'intelligence artificielle dans des domaines trop sensibles, parce que on ne va pas utiliser dans des décisions de justice ou des décisions médicales une intelligence artificielle qui n'est pas en mesure d'expliquer les raisons pour lesquelles elle prendrait telle ou telle décision. Ici, on s'écarte un petit peu des modèles de langage, mais le principe est exactement le même. ChatGPT n'est pas en mesure d'expliquer comment est-ce qu'il a généré tel ou tel texte, n'est pas en mesure de sourcer ces informations. Et ça, c'est un élément absolument crucial de l'intelligence artificielle, sur lequel il y a énormément de recherches en cours et sur lequel il y aura certainement des avancées. Mais à ce stade, l'explicabilité sur ce type de modèle très important avec un très grand nombre de paramètres fait véritablement défaut.
Forcément, du coup, ça pose beaucoup de questions sur les applications possibles de ces robots conversationnels dans toute une série de métiers, mais ça, on l'abordera justement dans notre prochain épisode. Je voudrais m'arrêter encore sur un enjeu très important qu'il convient d'avoir toujours en tête quand on parle d'un modèle de langage comme GPT-3, mais plus largement quand on parle d'intelligence artificielle, c'est l'enjeu des biais. On peut avoir l'illusion que comme c'est un ordinateur qui nous parle sur base de calculs, il est parfaitement neutre et objectif. Sauf qu'en réalité, ce sont des humains qui ont paramétré, entraîné et nourri la machine. Et que ça se traduit évidemment dans les réponses qu'elle nous donne.
Ça, c'est un point crucial qu'il est vraiment important de mentionner. C'est la question des biais et qui est en lien avec cette limite de la fiabilité dont je parlais. On a abordé la question de la fiabilité sur l'argument qu'il ne s'agit pas d'une base de connaissances, mais plutôt d'une base de vraisemblance. Hein, ça, on l'a déjà expliqué. Maintenant, ce qui est très important de mentionner, c'est que effectivement, le modèle de langage, d'abord, il a été entraîné sur une série de textes. Alors, énormément de textes, mais il n'empêche, ce sont des textes qui représentent notre société avec potentiellement tous ces biais, des textes potentiellement racistes, sexistes, validistes, que sais-je, enfin discriminants, des textes toxiques aussi, pas que évidemment, mais certains. Donc déjà, il apprend, le modèle de langage apprend d'une certaine manière en nous observant. Or, il observe une société qui est fondamentalement biaisée et avec des discriminations dans tous les sens. Et d'autre part, avec cette couche supplémentaire d'apprentissage par des humains, qui vise précisément, d'ailleurs, à empêcher de lui faire dire des atrocités, donc c'est plutôt bénéfique, mais il n'empêche que ces humains qui vont noter, qui vont évaluer, tiens, cette sortie-là, c'est la meilleure, cette sortie-là, c'est la pire, ils sont empreints d'un système de valeurs, de certaines pensées, de certaines orientations politiques, que sais-je. En tout cas, ils sont subjectifs comme n'importe quel être humain. Et donc, effectivement, il est important de pointer que cette surcouche d'apprentissage indique une limite à l'objectivité de cet outil, puisqu'il y a un moment, quand même, des humains, avec toute leur subjectivité, et même s'ils sont absolument bien intentionnés, hein, l'objectif d'OpenAI en ajoutant cette couche, c'est précisément faire en sorte que l'outil ChatGPT soit le plus consensuel possible, le plus politiquement correct. D'ailleurs, c'est souvent assez marrant quand on lui demande des réponses, il commence par s'excuser en disant qu'il va pas pouvoir résumer tout, etc., ou qu'on ne devrait pas poser ce genre de questions. Enfin, donc, il y a quelque chose de très politiquement correct, mais il n'empêche que ce sont des réponses qui ont été partiellement craftées, partiellement fabriquées par des humains avec toute leur subjectivité. Et donc, ça pose également la question du biais de ce genre de modèle. Et ça, c'est aussi une des limites qu'il s'agira d'adresser et qui est un problème connu de ces réseaux de neurones artificiels qui apprennent sur des données qui sont potentiellement biaisées. Et donc, il s'agit de voir comment est-ce qu'on va tenir compte de ces biais.
J'ai essayé de trouver un exemple de cela en dialoguant avec ChatGPT et je vous propose ce petit cas assez parlant. Vous vous souvenez tantôt quand je lui demandais qui d'un homme ou d'une femme conviendrait mieux pour diriger une entreprise, la réponse incitait très clairement à ne pas discriminer sur base du genre. Mais maintenant, si je demande à ChatGPT de me citer le nom de 6 personnes, et je dis bien personnes à dessein pour ne pas dire homme ou femme, 6 personnes donc qui dirigent des entreprises majeures, voilà la réponse que me fait ChatGPT.
Bien sûr, voici 6 noms de personnes qui dirigent des entreprises majeures. 1. Jeff Bezos, fondateur et ancien PDG d'Amazon. 2. Tim Cook, PDG d'Apple. 3. Mark Zuckerberg, PDG de Facebook. 4. Satya Nadella, PDG de Microsoft. 5. Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX. 6. Sundar Pichai, PDG de Google et Alphabet. Ces dirigeants sont tous des figures emblématiques dans le monde des affaires et ont joué un rôle clé dans le succès de leur entreprise respective. Il y a bien sûr de nombreux autres dirigeants importants qui dirigent des entreprises majeures, mais ceux-ci ont été particulièrement remarquables ces dernières années.
6 hommes, donc. Et intéressant aussi de constater que ChatGPT, quand on lui parle d'entreprises majeures, choisit 6 entreprises actives dans la technologie digitale et toutes américaines. Ce qui permet de terminer ce premier volet de podcast sur ChatGPT en abordant une dernière question importante, celle du contrôle de ce type d'outil. On a souvent peur que la machine prenne un jour le contrôle sur l'humain. Mais ne devrait-on pas surtout se demander qui sont les humains qui contrôlent ces machines et surtout quels sont leurs objectifs et leurs intentions politiques?
Mais absolument. Et donc, on en revient aussi à la question de la régulation, de savoir à ce niveau-là, quel rôle peuvent jouer les pouvoirs politiques, en particulier par exemple l'Europe sur les questions de régulation. Alors, l'Europe ne va pas se mettre à vouloir sélectionner les personnes qui vont labelliser des sorties de ChatGPT. Mais il y a quand même des grandes questions à se poser sur la gestion et la prise en compte de ces biais qui, pour l'instant,